Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coup de cœur littéraire.
J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas.
Rencontre.
Déjà, le titre est une absurdité, c'est une erreur totale.
Auteur, éditeur.
C'est quoi la parole sur un texte? C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas?
Grain de Fleur Café, un podcast de Grande Contrôle avec la librairie Caribde.
Bonjour et bienvenue dans Grande Fleur Café à Grande Contrôle où la librairie Caribde est ravie de vous accueillir comme tous les mardis. Ce soir, on va vous parler à nouveau de trois livres que l'on aime et on espère qu'à la fin de ce petit séjour avec nous, vous les aimerez aussi si vous ne les connaissez pas déjà et que vous aurez envie de vous les procurer et de les lire. Trois livres, on va commencer par quelque chose qui j'espère est un peu aussi une marque de fabrique de la librairie Caribde de Grande Contrôle, c'est que dans un univers littéraire où parfois les genres sont cloisonnés de façon excessive. Les genres littéraires, il y a du roman policier, il y a de la littérature dite générale ou dite blanche, il y a de la science-fiction, du fantastique, etc. Nous, on trouve, c'est très bien, ça a plein d'avantages, les genres, ça permet de s'y retrouver, mais c'est aussi extrêmement frustrant, c'est aussi une façon d'affirmer les frontières là où il peut ne pas y en avoir. Et on aime bien nous mêler les genres et s'affranchir autant qu'on peut des frontières, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Libres et Curieux chez Grande Contrôle. Donc, le premier roman, lui, est classé en science-fiction. C'est un très grand roman, écrit en 2015, traduit en 2019 aux éditions Bragelonne par Florence Delisi. Ça s'appelle Aurora, de Kim Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson, c'est peut-être, et je pèse mes mots, c'est peut-être bien le plus grand auteur de science-fiction contemporain. C'est un type assez incroyable, un Californien, qui a une œuvre maintenant tout à fait conséquente derrière lui. Donc, je vous dirai un petit mot quand même, parce que chaque titre qu'il a écrit fait envie. Dans un univers de science-fiction où, bien entendu, il est question de science. Il est peut-être l'archétype de quelqu'un qui est avant tout fondamentalement un littéraire. C'est un docteur en littérature, un spécialiste de Philip K. Dick. Et il a une rigueur scientifique totalement affolante. C'est un obsédé de la documentation. Alors, Aurora, c'est le thème de base, celui qui vous saute aux yeux immédiatement dès les toutes premières pages. C'est l'un des plus anciens thèmes de la science-fiction. Un thème qui est né dans les années 40, qui a été exploité, voire surexploité dans les années 50 et 60, qui est ce qu'on appelle le vaisseau générationnel. Le vaisseau générationnel, c'est, je vous passe les détails scientifiques ou para-scientifiques, mais en tout cas, on envoie dans l'espace un ensemble de gens qui seront amenés, qui ne verront pas en fait la planète qu'ils visent parce que ça prendra trop d'années à s'y rendre, mais qui ensuite vont développer en fait une communauté à l'intérieur du vaisseau. Donc ça pose évidemment des enjeux, on l'imagine bien, psychologiques, sociologiques, scientifiques et techniques absolument énormes, qui ont parfois été traités de façon sérieuse par les prédécesseurs proches du lointain de Kim Stanley Robinson, parfois de façon un peu moins sérieuse et beaucoup plus drôlatique. Mais donc le vaisseau générationnel, c'est en apparence un thème un peu usé pour ceux qui pratiquent la science-fiction. Et Kim Stanley Robinson, donc en 2015, réussit à le renouveler presque totalement parce qu'il le prend fondamentalement au sérieux. Il en analyse les moindres détails scientifiques, la faisabilité, les problèmes concrets que ça pose à partir de la science de 2015. Et puis, ça pourrait être un gros traité scientifique un petit peu barbant, sauf si on est vraiment passionné. Mais il réussit donc à traiter des exoplanètes, de la vie, de l'adaptation à des circonstances complètement différentes, même si l'air est respirable, etc. Parce que il utilise un biais complètement inattendu, un biais secondaire, mais qui devient absolument essentiel. C'est que l'ordinateur de bord de ce vaisseau, qui a évidemment un rôle essentiel, mais un rôle avant tout logistique. C'est celui qui gère effectivement des centaines et des milliers de paramètres et qui fait que le vaisseau tient le coup pendant ces centaines d'années de voyage. Mais cet ordinateur, l'ingénieur en chef de la dernière génération, avant qu'ils arrivent à leur cible, à une centaine d'années-lumière de la Terre. Cet ordinateur, l'ingénieur en chef va l'inciter, par des méthodes qui sont tout à fait les méthodes scientifiques d'aujourd'hui, lui fournir des algorithmes, des méthodes mathématiques, pour que lui, de lui-même, en fait, il se lance dans la voie de l'intelligence artificielle. Donc pour que ce supercalculateur devienne intelligent. Et là, du coup, Kim Stanley Robinson en profite non seulement pour passer en revue tous les principaux paradigmes de ce qu'est ou ce que n'est pas l'intelligence artificielle aujourd'hui, de façon extrêmement sérieuse, sérieuse, mais il le fait d'une manière très joueuse et très agréable à lire, parce que le roman lui-même, Aurora, est en fait le récit demandé à l'intelligence artificielle par l'ingénieur en chef, et ça on l'apprend au bout d'une quinzaine de pages, et on voit donc les caractéristiques narratives du récit se transformer sous nos yeux au fur et à mesure que l'ordinateur accède, ou pas, hein, à l'intelligence. Et donc, le récit lui-même se transforme de maladroit, de gauche, de surdimensionnant certains aspects de façon un peu mécanique, à quelque chose qui devient une prose alerte de littérateur humain, en fait, vers la fin. Alors, plus quelques passages absolument extraordinaires d'astrophysique. Donc, c'est un roman qui est à la fois voilà, très scientifique, et qui rejoint des préoccupations très contemporaines, très actuelles. Très récemment, les quatre scientifiques français qui se sont rassemblés aux éditions La Ville Brûle autour de l'un des grands emblèmes de la pop culture hein, contemporaine avec L'Art et la Science dans Alien, paru également en septembre 2019, nous proposent effectivement des réflexions qui sont très proches de celles que Kim Stanley Robinson nous permet de suivre à un niveau qui ne demande pas d'avoir justement un doctorat en astrophysique ou un doctorat en intelligence artificielle, ce qui est quand même agréable. Même pour des gens qui ne sont pas familiers avec la science-fiction, mais une porte d'entrée absolument intéressante et plaisante, c'est Aurora de Kim Stanley Robinson, donc publié aux éditions Bragelonne, dans une traduction de Florence Delisi. Le deuxième ouvrage, si vous nous suivez depuis quelque temps, vous savez qu'on aime bien ne pas s'arrêter à la nouveauté toute fraîche qui vient de sortir, que la grande littérature, elle n'a pas d'âge. Et donc, on souhaite vous parler d'un roman de 1951 qui s'appelle Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Alors, on dirait, bon, tout le monde connaît Le Rivage des Sirtes. Peut-être, on le connaît, on ne l'a pas toujours lu. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande chaleureusement, je vais vous dire pourquoi. Le Rivage des Sirtes, en 1951, est sorti, hein, comme on dit, dans un contexte quand même bien particulier, qui a parfois un peu occulté le fond du roman parce que c'était le refus du prix Goncourt, quelque chose qui n'était jamais arrivé. Julien Gracq qui fait trembler la République des Lettres en disant « Non, mais votre Goncourt, je n'en veux pas. » Puis qui a sorti ça d'un pamphlet remarqué et remarquable qui s'appelait « La littérature à l'estomac ». Bernhild Boy, la chercheuse allemande qui est à la fois l'exécutrice testamentaire de Julien Gracq et la plus grande spécialiste de ses œuvres, c'est elle qui a dirigé l'édition de la Pléiade, des œuvres complètes de Julien Gracq. Bernhild Boy faisait remarquer à juste titre que en 1951, l'ensemble ou presque de la critique littéraire des grands journaux, qui avait un poids extraordinaire à l'époque, hein, dans les années 50, ben, a finalement plus parlé du refus du prix Goncourt que de ce qu'il y avait dans Le Rivage des Sirtes. Donc c'est un roman qui a mis du temps finalement à être découvert réellement par le lectorat. Donc c'est un roman qui nous plonge dans la vieille seigneurie d'Orsena. Orsena, c'est une sorte de Venise puissance 50, mais qui serait plutôt des années 30, 40, 50, même si Julien Gracq a tenu à ce que ça soit pas trop situable géographiquement et pas trop situable historiquement. Donc il s'est bien gardé qu'il y ait trop de notes technologiques, de choses comme ça, qui permettent d'assigner une date. Mais disons, le climat, ce serait ça, entre les années 20 et les années 50. Ces vieilles seigneuries d'Orsena, donc qui se trouvent au bord d'une Méditerranée imaginaire, dans un contexte de déclin de l'Occident, Julien Gracq avait été fortement influencé, même s'il s'en est totalement détaché par la suite, par le livre d'Oswald Spengler, publié en 1918. Cette vieille seigneurie mène une guerre qui est arrêtée, en fait, depuis trois siècles, sur le lointain front des Sirtes, hein, face à un ennemi que l'on subodore oriental, incompréhensible, qui est de l'autre côté de cette mer, le Farghestan. Et on y envoie donc le jeune Aldo, qui est d'une excellente famille, de la seigneurie d'Orsena, et c'est un peu voilà, avant de pouvoir prétendre à de plus hautes fonctions, c'est un peu sa période qu'il va devoir faire sur ce front. Et il y arrive donc dans un climat qui n'est pas celui de la capitale d'Orsena, qui est un climat à la fois provincial et en même temps de la ligne de front, mais de la ligne de front d'une guerre qui a arrêté depuis trois siècles, donc les 9/10 des gens sur place ne prennent plus ça très au sérieux. Il y a quand même des gens qui prennent au sérieux, qui disent « attention, il y a un ennemi ». Alors on songe souvent, quand on débute le Rivage des Sirtes, à un autre ouvrage que Gracq n'avait pas lu, de même que Dino Buzzati n'avait pas lu le Rivage des Sirtes, même s'ils sont parus à peu près en même temps. Hein. C'est Le Désert des Tartares, bien entendu. On attend aussi un ennemi qui ne vient pas. Là, on ne l'attend pas véritablement, cet ennemi. On fait un travail. Ce que traque en fait Julien Gracq, et il nous emmène à ses côtés, donc aux côtés d'Aldo bien entendu, mais aussi d'autres personnages que je ne citerai pas parce que je pense que vous les découvrirez avec tellement de plaisir quand ils sortiront peu à peu de l'ombre. Il quête en fait dans Le Rivage des Sirtes le mythe de l'esprit de l'histoire, c'est-à-dire de la fatalité historique. Julien Gracq, c'est un géographe avant tout, qui pèse les structures, qui pèse les inerties, qui a aussi cette capacité d'historien à extrapoler. Donc, et face à ce qui semble écrit sur le papier, il nous montre avec une immense habileté qu'il y a évidemment des structures à l'œuvre, mais qu'il y a de la liberté, il y a des espaces justement où rien n'est inexorable. Ça rejoint beaucoup des travaux écrits bien après, mais qui font ce pont entre l'histoire, la géographie et la littérature, qui sont évidemment les paysages politiques de Yves Lacoste, écrit en 1990, et le magnifique Géographies imaginaires, au pluriel, de Pierre Jour, dans 1991. Julien Gracq, dans Le rivage des Sirtes, il intègre le grand et le petit, et il donne du contenu à cette phrase d'Heinrich Böll, qui a écrit ça 4 ans avant, en 1947, donc en Allemagne, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, au début du miracle économique allemand, avec ce slogan qui était « Es wird etwas geschehen », il va se passer quelque chose. Julien Gracq nous fait sentir qu'est-ce que c'est quand on se met à dire « il va se passer quelque chose », et derrière, il décrypte pour nous, d'une manière mais magnifique, que quand on, une parole qui peut être un peu à la légère, justement, dans une civilisation un peu assoupie, qui serait « Ah, il nous manque une bonne guerre », bah que ça veut dire quelque chose et que c'est pas une phrase à manier à la légère. Et donc, Le rivage des Sirtes, il faut absolument le lire. La langue concise et précise d'un poète qui est à la fois bien plus qu'un poète et qui est toute la poésie en lui. Alors, pour finir aujourd'hui, un ouvrage qui, lui, est tout à fait d'actualité. Il est paru en septembre 2019 chez Actes Sud. C'est un ouvrage qui s'appelle Substance, de Claro. Substance, ça nous envoie aux frontières mystérieuses de la vie, de la mort et de l'identité humaine. Et pourtant, malgré ce cadre extrêmement sérieux, c'est un conte qui est farceur, qui est rusé, qui est ambigu et qui est diaboliquement poétique. Benoît, c'est un orphelin qui a été recueilli par la tante dans un petit village de l'Aube, dans sa maison. Benoît, donc, il grandit là. La tante, c'est la tante à tout faire. Elle est obsédée de cuisine. Elle pratique des mélanges sucrés-salés extrêmement audacieux. C'est une habile négociante d'acquisition en viager qui se révèle toujours éminemment profitable car elle a une sorte de sixième sens de l'observation ou diagnostic avant de signer où, curieusement, et il n'y a a priori pas de main criminelle là-dedans du tout, mais les gens à qui elle achète en viager décèdent peu après. Donc elle fait toujours d'excellentes affaires. C'est presque un sixième sens. Et là, bien entendu, il y a un petit jeu de mots avec un film de Night Shyamalan, vous vous en doutez. Donc la tante est tour à tour pour Benoît, et qui vit ça au quotidien. Donc en fonction des contextes et des situations, bah, la tante, c'est la tante aux dictons confus, c'est la tante aux palais aberrants, c'est la tante aux émulations fantoches, c'est la tante aux wok sadiques, c'est la tante qui pense tout haut, c'est la tante à l'œcuménique intérêt, la tante aux encouragements thérapeutiques. Donc tout ça en permanence, au fur et à mesure qu'on nous livre, mais sans y passer des heures, mais les recettes invraisemblables inventées par la tante, Benoît qui évidemment trouve ça généralement aussi immonde que l'idée que vous en auriez en lisant la liste des ingrédients, mais qui est entraîné dans ce tourbillon par la tante. Autour de lui, elle tisse néanmoins un cocon très protecteur donc de cet orphelin qui a beaucoup souffert dans là où il était, en fait, dans l'orphelinat où il était au préalable, qui a son nom, que je vous laisserai découvrir également parce que ce nom est lourd de sens. Et il grandit peu à peu jusqu'à un moment où, qui arrive assez tôt hein, dans le livre, c'est pour ça que ce n'est pas un divulgachage, à l'occasion d'une veillée mortuaire, plus ou moins improvisée, Benoît découvre qu'il est doté d'un talent assez singulier puisqu'il peut recueillir une substance invisible au commun des mortels qui lui permet d'entrer en contact avec certaines sensations intime liée au défunt. En d'autres termes, il est devenu de facto, à ses yeux et bientôt à ceux de sa tante, un spirit débutant spécialisé dans le toucher ectoplasmique, la substance. Alors, substance, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que ça a l'air léger comme ça, c'est farceur, c'est un conte. On retrouve cette façon qu'a Claro d'explorer en fait des ressorts humains secrets qui sont dissimulés aux confins de la technique, de la politique et de la pop culture. Chose qu'il avait faite dans le livre 19 en 97, quand il passait en revue un certain nombre d'inventions du 19e siècle et qu'il essayait d'en extraire un sens inhabituel. Ce qu'il avait fait dans Cosmos en 2010, en relisant, en extrapolant, en donnant les dimensions d'un monde au magicien d'Oz, donc, qui était né avec le XXe siècle. C'est ce qu'il a fait aussi dans Tous les diamants du ciel en 2012, c'est ce qu'il a fait dans Crash Test en 2015. Il y a vraiment cette exploration des mécaniques de l'humour, des ressources sans fin de la virtuosité langagière, parce que s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui qui manie les moindres ressorts secrets du langage et de la phrase, c'est Claro, qui peut dissimuler trois ou quatre phrases à l'intérieur d'une seule, s'il le souhaite. Et ça lui permet d'évoquer des ruelles qui peuvent être fort sombres, qui peuvent être très inattendues. Et donc, Substance, Voilà, c'est un jeu de mots facile, mais c'est une lecture qui est absolument substantifique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On aura plaisir à vous retrouver la semaine prochaine avec trois nouveaux livres. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, nous vous proposions Aurora de Kim Stanley Robinson, publié en 2015 et traduit en 2019 chez Bragelonne par Florence Delisi. Nous vous proposions Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq, paru en 1951 chez José Corti. Et enfin, Le Substance de Claro, publié en 2019 chez Actes Sud. À bientôt, et surtout, j'espère que ces livres vous plairont autant qu'ils nous plaisent. C'est notre souhait le plus cher. À bientôt.
C'était Grain de Fleur Café, un épisode produit par Grain de Contrôle avec la librairie Caribde.
C'était très bien. C'était très bien.
À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.